Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Dernière semaine, la quille c'est vendredi, la dame est déjà partie, l'actualité n'a rien d'un filet garni, mais on va bien sûr, évidemment, trouver de quoi vous causer. De foot féminin, tiens d'abord, logique, deux jours après France-Cameroun, 6 avant le début de la CAN au Maroc, 10 avant le début de l'Euro en Angleterre. Premier focus rapide sur ces deux compétitions majeures et les forces en présence. Franck Simon, je le sais, vous êtes chaud patate, bonjour.
Hey, bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bah oui, j'aime le football féminin et je le revendique.
Et nous, on est contents d'en parler. Ça tombe bien. Forcément, on va parler transfert, mouvement, retour, départ. Rien de notoire ce week-end. Toujours les mêmes suppositions ou secrets de Polichinelle. On attend l'arrivée officielle de Sébastien Haller à Dortmund, le retour de Lukaku à l'Inter, l'arrivée de Christophe Galtier au PSG. On sait en revanche à coup sûr qu'il ne sera plus niçois car Lucien Favre est de retour chez les Azuréens. 4 ans après, il a déjà dirigé ce matin l'entraînement de la reprise. Bien ou pas, Eric Ramessandratana?
Bonjour. Ça m'a l'air pas mal. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Ça ouais, m'a l'air pas idée, mal. Écoute, hein ouais, on va voir. C'est pour ça qu'on va en parler. Hein, finalement, ça tombe bien qu'on soit tous d'accord. Pour finir, direction l'Italie et Monza. D'habitude, on y parle Ferrari et Formule 1. Et bien depuis fin mai et surtout à partir d'août prochain, on y parlera aussi Calcio et Silvio. 110 ans d'histoire dans l'anonymat ou presque, et voilà l'AC Monza enfin en Serie A. Et c'est qui le taulier là-bas? Tonton Silvio Berlusconi, 85 ans, toutes ses dents bien blanches, tous ses cheveux bien teints, tout son argent bien placé. Bon, là j'avais plusieurs participants et, mais je voulais éviter le procès.
Non.
Ça vous inspire quoi tout ça, Salim?
J'ai eu peur quand vous avez évoqué les 110 ans d'histoire, je pensais que vous parliez des 110 ans de Silvio Berlusconi. Non, il n'a que 85 ans, ça va.
Bah, c'est-à-dire qu'il cherche à en faire 40.
Oui, donc, c'est ça.
85 voilà. D'expérience.
Ça vous inspire ce retour?
Mais toujours. Bon,
Silvio est arrivé,
Silvio.
Bien sûr.
Silvio,
bien sûr. Et autant que votre tri du week-end?
Je suis en train d'y arriver. Je suis en train d'y arriver.
Mec, c'est Finzel.
Il y en a encore un peu.
Ah, oh, cette saleté Finzel.
Mais j'y arrive petit à petit.
Et oui, le week-end, il ne sait pas quoi faire. Il trie ses centaines de maillots de foot, Salim Bangali, et il envoie des vidéos à David Finzel. Son bizarre, ces gens-là.
Ouais.
Vous avez une femme, sinon?
Oui, oui, et heureusement, elle est d'une patience infinie quand je range mes maillots, j'ai de la chance.
Oui, parce que vous en avez combien?
Près de 800.
Félicitations.
Ouais. Que des clubs anglais. Hein.
Non, du tout. J'ai des maillots de Reims, hein, notamment.
Ah bah, on va bien le causer.
On en reparlera après. Ouais.
Bon, mais finalement, donc pas trop le temps de niaiser, on vient de le faire. David Finzel s'y est collé, Milo Verchère, stagiaire, a collaboré, Maestro Salerno va réaliser.
La bonne tête.
La ramassée au drapeau de Stéphane Levé. Et c'est Melvin Malard qui permet à l'équipe de France de mener 1-0.
Le corner à venir. Allez, il faudra être assez vigilante sur ce corner. La tête encore! Et bien sûr, c'est Oulé Matassar qui double la mise dans cette rencontre sur deux corners.
En préparation, on travaille pour justement ajuster les choses qui sont à modifier un peu, mais c'était bien quand même.
Bah oui, c'était bien quand même, surtout pour Oulemata Sarr, là, c'est quelques mots. Double buteuse, hein, samedi soir face au Cameroun, c'était à Beauvais, dans l'extrême nord du pays, où il fait encore moins 12 au mois de juin, pour un succès net et sans crainte des Bleus, 4-0, des titulaires au repos, Franck Simon, des remplaçantes qui font le boulot, des Lyonnes sans crocs, voilà, on résume à peu près comme ça.
Oui, il y avait vraiment une différence, un écart très important entre Camerounaises et Françaises. Ça peut s'expliquer puisqu'on sait que les Françaises, c'est du top 4, top 5 mondial. Les Camerounaises, c'est du top 4 continental. Même si elles étaient mondialistes, elles sont venues en France disputer la dernière finale de Coupe du Monde.
Elles s'étaient même qualifiées pour les huitièmes de finale.
Absolument.
Un match de fou furieux face à la Nouvelle-Zélande. À Montpellier, je pense que les voix de Christophe Dirabzian et la mienne s'en souviennent encore.
Ouais, super parcours.
Pour autant, tout à la fin.
Voilà, pour autant, il y a quand même un fossé important. Et
La France est troisième mondiale, pour être précis. On reviendra sur le classement des équipes africaines, mais le Cameroun, deuxième nation africaine, est 54e. Et la différence, bah, elle est quand même énorme, encore plus frappante chez les femmes que chez les hommes.
Même si, je trouve, les Camerounaises ont progressé.
Ouais,
et c'était beaucoup plus serré qu'on aurait pu l'imaginer. Après, elles ont fait la différence, les Françaises, sur des coups de pied arrêtés en particulier.
Gabriel Szabo, le sélectionneur camerounais, avant le match, disait que ce genre de match, après la double confrontation face au Sénégal, c'était la manière de se tester face à un très grand mondial, justement, et de voir à quel niveau on était, et ce, à quelques jours de la CAN. Il n'y avait pas d'espoir. C'était potentiellement compliqué de gagner
faire mieux
face
que le
à l'équipe
6-0
de
2018.
Ils ont réussi.
Mais ils ont réussi. Mais surtout, on sait qu'il y a un écart entre la France et le Cameroun. Ce n'est pas évidemment la question qu'il fallait évoquer là. Mais il fallait surtout voir comment les joueuses pouvaient faire face à une très grosse adversité. Les Camerounaises n'ont pas été ridicules.
Non,
mais
il y a eu
encore une fois des erreurs défensives sur certaines séquences, sur les coups de pied arrêtés, notamment les deux têtes françaises. Bref. Il y a des séquences qui n'ont pas été bonnes, d'autres intéressantes. Donc le Cameroun n'est pas si désespérant que ça, loin de là même.
Vraiment. On va reparler du Cameroun. Vous vouliez dire un mot, Eric ?
Non, je pense qu'elles sont en apprentissage et en progression. Ce qui fait la différence encore plus chez les filles, je pense, c'est les détails. Et les Camerounaises, elles vont apprendre de leurs erreurs, c'est tout.
Après, il ne faut pas oublier quelque chose. Pour la plupart, elles sont quand même, les cadres sont professionnels. Je pense à un shoot à Jara qu'on a eu la chance d'avoir ici.
Jara, qui est l'attaquante de l'Inter Milan, qui était à l'Atlético ou à l'Atlético Madrid la saison dernière.
Un peu partout. Elles évoluent dans les championnats professionnels. Il y a les cadres, elles sont toujours très intéressantes. Je pense à
Ongené qui joue à Moscou.
Voilà. Il y a toujours, je pense, un souci au niveau du poste de gardienne.
Oui.
C'était déjà le cas auparavant, mais moi, je leur donne quand même beaucoup de crédit et de respect parce qu'on parle d'une vraie nation, une des favorites justement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
On va reparler de la CAN, bien sûr, mais laissez-moi dérouler mon conducteur comme je l'entends. C'est pénible ça quand ils veulent prendre la main.
On vous chahute, Olivier.
Parlons de la France et bien sûr de l'Euro qui va démarrer puisque les deux compétitions, les deux tournois sont au même moment dans quelques jours. On écoute Corinne Diacre. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Alors elle estime que les Bleus sont sérieuses, disciplinées. Mais qu'est-ce que vous pensez ? On dit la sélectionneur avec un E à la fin ou on dit la sélectionneuse ? Arbitrage.
Je crois que c'est heure, mais.
Attention, parce que par les temps qui courent, on risque très gros, les gars.
Je crois que c'est sélectionneur avec le E à la fin.
Ici. Ah, c'est ça.
Le coach ? On va dire ça.
Après, RFI, ça colle moins bien.
Malheureusement, par le passé, il y a eu des très gros dérapages. Pour ça, moi, si on dit sélectionneuse, je n'en serais pas fâché.
Mais ça ne marche pas pour entraîneur, parce que ça ferait entraîneuse. Et là,
mais
ça pourrait être mal interprété.
Mais justement, c'est des dérapages dont je vous parle. Là, c'était du grand n'importe quoi, on l'a entendu. Sélectionneuse, ce n'est pas choquant. Après, il faut lui poser la question. Peu importe. Je pense que si on l'appelle coach Diacre.
On va trancher avec Laurent Salerno et je propose à Laurent qu'il nous envoie la sélectionneur Corinne Diacre.
On a été sérieuses et disciplinées, je pense, sur l'ensemble du match. Les joueuses qui sont entrées ont fait du bien à l'équipe. Voilà, on savait que tout ne serait pas parfait, on l'accepte, on sait qu'on a encore un peu de travail. Donc malgré tout, on met 4 buts, on n'en prend pas. Mais en tout cas, il y avait des intentions ce soir, même si on a manqué d'un peu de justesse technique. On va essayer de récupérer et d'avoir un petit peu plus de fraîcheur la semaine prochaine.
Ouais, bon, alors on se calme et on boit frais parce que c'est vrai, 10 jours très 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 intensifs d'entraînement, donc des organismes fatigués, il s'agit de préparer l'Euro, un mois sans compétition, le championnat s'était arrêté fin mai, donc finalement, et une équipe quasiment B, Wendy Renard était sur le banc, rentrer, donc voilà, on était très loin de l'équipe titulaire, celle qui visera la victoire à l'Euro.
Là, c'était une rencontre test, enfin non, mais c'est surtout sur cette séquence, également face au Vietnam dans quelques jours. C'est une
vendredi.
Période où on va surtout faire tourner et voir où en sont les organismes au final, où en sont ces joueuses, est-ce qu'elles peuvent certaines jouer ensemble lorsqu'il y a une blessée potentielle, etc. On a vu Melvin Mallard jouer à droite, on a vu une autre gardienne habituelle, bref, plein de tests faits. Contre le Vietnam, ce sera la même chose aussi. Je ne suis pas sûr qu'on voit l'équipe type face au Vietnam. D'ailleurs, ça paraît étonnant, il n'y a que 2 matchs au final préparatoire.
Ouais, c'était le cas déjà pour la Coupe du Monde.
Vous avez raison, c'est vrai.
Il y avait très peu de matchs. Il y avait eu la Thaïlande et il y avait eu la Chine avant d'aborder la compétition et la Corée du Sud. C'est le mode de travail choisi par Corinne Diacre.
Oui, c'est étonnant parce que dans le même temps... dans le même temps que ce match France-Cameroun, il y a eu un Angleterre-Pays-Bas qui est quand même d'un tout autre niveau. Les Pays-Bas sont tenants du titre, tenants du titre de l'Euro. L'Angleterre fait parmi les top et l'Angleterre a d'ailleurs gagné 5 buts à 1 avant l'Euro chez elle.
C'est, ça ressemble à une demi-finale mondiale, même pas continentale, mais mondiale.
Bah, disons que ça te prépare en vrai à la compétition qui arrive derrière. Elles sont en période de préparation, donc y a un gros travail physique parce qu'on part sur un mois de compétition. Donc c'est une remise à zéro complète. Elles sortent de ce temps mort un peu entre à la fin de saison. Donc c'est des matchs de préparation. C'était celui contre le Cameroun. Il y en a un deuxième derrière, mais je trouve ça, franchement, c'est vrai, il y en a
contre
pas
le Vietnam, oui, effectivement. Et le Vietnam, aura pas plus, 32e nation mondiale.
Je suis pas sûr qu'on ait plus d'indications avec ce deuxième match. Donc elles vont partir un peu dans l'inconnu. J'espère qu'elles sont bien physiquement, mais en tout cas, elles ont de l'expérience et elles vont gérer. Et elles ont des joueuses de talent aussi.
Oui, parce que on va rentrer un peu plus dans cet Euro. Le programme de la France, c'est quand même pas hyper simple. L'Italie le 10 juillet, l'Italie c'est 14e au classement FIFA, mais ça a déjà été, alors il y a quelques années, mais demi-finaliste de l'Euro, ce que les Françaises, on le rappelle, n'ont jamais été capables de faire, c'est maximum quart de finale en 2009, 2013, 2017. On rappelle que la France est la 3e nation mondiale derrière les États-Unis et la Suède. Après l'Italie, il y aura la Belgique le 14 juillet, le jour de la fête nationale, ça devrait bien se passer. La Belgique est 19e mondiale, et ensuite l'Islande, le 18 juillet, l'Islande 17e. Donc ça veut dire qu'on va rencontrer quand même des équipes du top 20, trois équipes. On sait que l'Europe domine le classement féminin. Mais donc pas simple, on va tout de suite rentrer face à des équipes qui sont d'un tout autre niveau que les deux qu'elles viennent de rencontrer. Et même avant, il y avait la campagne de qualification à la Coupe du Monde où on n'a pas rencontré du lourd. Donc ça manque quand même un peu d'adversité.
Mais c'est le problème. Tout à l'heure, on évoquait ce classement mondial où vous avez 5, 6, 7, 8 équipes, on va dire, qui sont au-dessus. Et quand elles s'affrontent, ça donne des gros matchs, ça donne de grosses confrontations. Et après, le gap est immense, en fait. Dès que vous sortez du top 15, 20, tout d'un coup, vous avez un gap immense et vous avez des équipes moindres où j'ai l'impression que le 50e ressemble à la 100e. J'exagère, mais pas loin. Donc, c'est vrai qu'au final, la France n'a jamais eu la possibilité, sur cette période, en tout cas sur cette longue période, d'affronter des grosses nations.
Moi, pour le coup, je trouve qu'elles sont plutôt bien loties parce qu'on aurait très bien pu hériter au tirage au sort de la Norvège d'Ada Hegerberg, qui est de retour.
Qui était toute flamme,
la Lyonnaise, qui revient très très fort, qui est de retour en sélection. On aurait pu hériter de l'Espagne, et Dieu sait, je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'a fait l'Espagne. Elles ont infligé un 7-0 à l'Australie, qui est le prochain organisateur, enfin co-organisateur de la Coupe du Monde. Ça donne une indication des forces en présence. Donc, Italie, Belgique, Islande, honnêtement, on est plutôt bien lotis, on va pas se plaindre. Ça prépare justement, ça permet de faire tourner sur un dernier match éventuellement, d'où l'intérêt des matchs qu'on vient de citer. Et puis derrière, il y a encore les quarts de finale, il faut aborder tout ça. C'est une compétition à 16.
C'est une compétition à 16, c'est vrai, mais Eric, vous savez ce que c'est que d'être sélectionneur. C'est vrai que c'est un choix de la part de Corinne Diacre, mais l'adversité, on est dans le fameux gap, mais comme on est sur RFI, sur le trou entre les 20 premiers et celles qui suivent. On a affronté la 54e nation mondiale, la 32e.
Ça montre peut-être aussi un élan de confiance qui fait qu'elle n'a pas besoin d'affronter des équipes bien plus fortes pour se préparer. Pour ces matchs qui vont arriver, elle se sent confiante, elle pense que l'équipe de France est capable de faire les résultats sans avoir besoin de faire des matchs un petit peu plus. Après, sur les huit équipes qui sont les meilleures, on n'a pas forcément envie d'affronter ces équipes-là quand on fait des préparations.
Il ne faut pas oublier les Sud-Américaines, c'est plutôt logique, et les autres. Hein.
Mais peut-être un petit peu moins.
J'ai pas tout le monde, mais voilà, je resitue le classement mondial avant de revenir vers Salim. Premier, les Américaines, on l'a dit, c'est intouchable. Deuxième, la Suède. Troisième, la France. Donc, quatrième, les Pays-Bas, tenante du titre. C'était l'Euro 2017, puisqu'on sait qu'en 2020, il n'y en a pas eu à cause du Covid. D'ailleurs, c'était marrant, les quatre premières en 2017, c'était Pays-Bas, Danemark, Autriche et Angleterre. Il n'y avait pas de Norvège, il n'y avait pas d'Allemagne. Le classement, donc l'Allemagne, cinquième, qui a remporté 8 euros sur 12 jusqu'ici. C'est un petit peu comme en Afrique, on va en reparler. Le Nigeria qui a gagné 11, 4 sur 13. Ouais, l'Allemagne, 8 euros sur 12. C'est simple, la Suède avait remporté le premier euro. La Norvège a réussi à grappillé en 87 et en 93 deux compétitions et les Pays-Bas ont gagné le dernier. Et ensuite, pour compléter ce classement mondial, mais pour montrer que l'Europe est là, 7e l'Espagne, 8e l'Angleterre. C'est quand même ultra dominé. L'Euro, c'est aussi fort qu'une Coupe du Monde, peut-être même
comme
plus
chez
fort.
Les hommes, comme chez les hommes.
Absolument, en termes de densité, effectivement, puisqu'il y a moins d'équipes aussi pour le coup. Juste, je me permets une petite digression, c'est que ce tournoi pour l'équipe de France est très important. Je rappelle, donc, l'équipe de France n'a jamais gagné de grande compétition dans ce foot féminin.
Ils sont troisième et ils n'ont jamais gagné de compétition quand même, c'est incroyable.
C'est vrai qu'on dit souvent que l'équipe de France, si elle gagne, en tout cas c'était le cas presque chez les hommes à une époque, elle a gagné et ça a entraîné un élan... au-delà de la popularité, même du nombre de licenciés, etc. Et là, on se dit que pour le foot féminin, et c'est ce qu'on attend au final, qu'il y ait ce truc qui permette de lancer enfin, parce qu'on en parle beaucoup, au final, même de ce foot féminin en club, Lyon qui gagne beaucoup, mais Lyon qui gagne beaucoup avec aussi beaucoup d'étrangères en son sein, le PSG qui est pas mal aussi avec de l'argent injecté, mais qui est tout de même là.
C'est l'inverse de chez les hommes, en club, ça ne gagne rien, il faut le reconnaître, mais en sélection, c'est champion du monde. Chez les femmes, en club, ça gagne tout sur la scène européenne.
Quasiment,
en sélection, le meilleur résultat, on le rappelle, c'était il y a déjà 11 ans. Quatrième de la Coupe du Monde en 2011, quatrième au JO l'année d'après. Depuis, rien.
Et vraiment, aujourd'hui, la France attend cela, le foot féminin en tout cas attend cela, de pouvoir gagner et de pouvoir entendre Noël Le Graët qui dit « Enfin, on a gagné, enfin, on va pouvoir décompter et lancer la chose ». Il attend que ça, en fait.
Bien, on attend qu'une chose aussi, c'est de voir Corinne Diacre sourire.
Ça reste compliqué, même s'il y a une vraie transition après la Coupe du Monde 2019. Ça a été, l'élimination en quart de finale a été très, très mal vécue.
Sans les Jeux Olympiques derrière, en plus.
Y a pas eu, élimination donc très tôt, donc. Impossibilité de se glisser, s'immiscer.
Et pourtant,
parmi
la fête était belle.
Les meilleures européennes.
La fête était belle. L'engouement était bon pourtant derrière.
Mais voilà, la fête a été belle, mais ça n'a pas été suivi malheureusement sur le plan des influences, par exemple, en club. Et il y a quand même une rupture, je le disais, au niveau de l'effectif. Et puis, on a des taulières qu'on n'avait pas nécessairement il y a 3 ans en arrière. Je pense à Marie-Antoinette Katoto, qui est l'avant-centre de l'équipe nationale aujourd'hui, titulaire. Elle n'était pas là, elle n'était pas présente, elle n'avait pas été retenue aujourd'hui. C'est la tête de gondole de cette génération. Il y a encore des Lyonnaises, il y a quelques Parisiennes, mais on va focaliser sur elle en particulier. Il y a une nouvelle gardienne également, Péroumanien, etc. Donc, on peut quand même estimer que cette équipe...
Elle vise la gagne, hein.
Bah, à minima. De toute façon, à chaque fois maintenant, ça sera ça, et y compris sur la scène européenne.
Quand vous êtes troisième mondial, vous l'avez évoqué avec le classement à l'instant, quand on a évoqué cette pression au final autour d'équipe de France de n'avoir jamais gagné de trophée, vous êtes obligé de dire on veut gagner, on veut aller au bout, on veut être à minima dans le dernier carré, voire même au-delà. Enfin, l'équipe de France, vu les joueuses qui sont à son sein, vous avez évoqué les Lyonnaises qui ont juste encore une fois gagné la Ligue des Champions il n'y a pas longtemps, les Parisiennes qui sont là, bref. Aujourd'hui, l'équipe de France ne peut pas viser moins que, à minima, la finale, j'ai envie de dire.
Il nous reste Wendy Renard, parce que pour les autres, malheureusement pour elles, les Amandine Henry, le Sommer, tout ça, c'est terminé. Elles ne sont plus dans le groupe. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de renouvellement, de nouvelles générations. Et c'est à cette jeunesse, appuyée par Wendy Renard, d'aller chercher un premier titre continental. On leur souhaite. Moi, j'aimerais bien une demi-finale. Ça, je pense que ça serait déjà pas... Ça serait super, mais si elles peuvent aller chercher le trophée, tant mieux, quoi.
Allez, en refermant cette page équipe de France, une pensée pour Marinette Pichon, bien sûr.
Bien sûr,
la,
bien
la
sûr.
Pionnière, la première à aller jouer aux États-Unis.
À jamais la première.
Une pensée pour elle, si jamais elle nous écoute, sait-on jamais. On revient quelques secondes sur le match de samedi, puisque c'était France-Cameroun. On a commencé à évoquer les Camerounaises et la CAN. Je vous propose d'écouter, ça c'est ma petite chouchoute. Hein. C'est ça, l'attaquante de l'Inter Milan, Ajara Joya Nchout, mais elle préfère glisser Tom Rossi qui était à ce match, maintenant qu'on l'appelle Ajara Joya, tout simplement. Joya, elle est hyper sympa et malgré tout, elle a pris 4-0 comme les autres. Elle trouve que c'est dur, mais bon, elle n'est ni découragée et elle ne trouve pas cela décourageant. On l'écoute.
Ça a été un peu dur, mais après, c'est vrai qu'on était vraiment avec un bloc bas. On a pris 2 buts en première mi-temps. Mais après, on est revenu en deuxième mi-temps. On a essayé de remonter le bloc. On n'a pas pu, mais je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre et avec le temps, on va y arriver. Nous avons une équipe jeune. Actuellement, nous savons à quel niveau nous sommes situés. Au niveau de la préparation, on va continuer à travailler avant de débuter la Coupe d'Afrique.
Ben oui, c'est un plaisir de l'entendre. J'adore le tempo de cette voix d'Ajara Joya.
Elle est déterminée.
Oui, très claire. On sent, encore une fois, elle a joué en Norvège pendant des années, l'Atlético Madrid, maintenant à l'Inter. Bon, Bref, la CAN, on l'a dit, c'est simple. On a longtemps raconté, c'était Gary Lineker hein, qui disait ça. Le foot, ça se joue à 11 contre 11. À la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais la CAN féminine, ça se joue à 11 contre 11.
Et à la fin, c'est le Cameroun qui gagne.
Non, jamais. C'est le Nigeria qui gagne. Ce sera la 14e CAN. Ce sera au Maroc du 2 au 23 juillet prochain. Ce sera sur RFI avec Hugo Boissonnier. Pendant toute la première partie, un petit passage d'Éric Mabrut parce qu'il aime ça aussi, le foot féminin, Éric, et c'est son droit. Et puis Hugo Boissonnier pour la finale.
Il a beaucoup travaillé, Hugo Boissonnier, j'ai l'impression.
Il aime le foot féminin, Hugo Boissonnier. Et donc vous suivrez tout ça. 12 équipes pour la première fois. C'est la première fois qu'il y aura 12 sélections, ce qui explique la différence de niveau. On va revenir sur les classements. On vous l'a dit, le Nigeria tenant du titre, c'est pas compliqué vu qu'ils en ont gagné 11 sur 13. La Guinée équatoriale est passée par là. Bon, elle a gagné deux fois. Je rappelle qu'à chaque fois, c'était chez elle. Mais je ne sous-entends rien du tout. Pourquoi pas. Sinon, pour ce qui est du palmarès, pour être complet, Franck, les nations fortes en dehors du Niger, parce que la Guinée équatoriale n'est même pas là, puis elle a disparu des radars. Le Nigeria, 11 titres, on l'a dit. Le Cameroun, 4 finales jouées, 4 perdues. L'Afrique du Sud, 5 finales jouées, dont la dernière, 5 perdues. Voilà, en gros, le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud sont les taulières du foot continental féminin.
Absolument, ce sont des mondialistes en plus, toutes récentes. Il manque quand même les Ghanéennes dans cette...
Oui, les Maliennes qui avaient été quatrièmes, ainsi que les Maliennes au Ghana en 2018.
Absolument, qui avaient été demi-finalistes. J'avais l'occasion de les commenter, il y avait de la qualité. On était même allé chercher des joueuses, des binationales évoluant en France.
Je crois qu'il y a même un championnat qui s'est mis en place depuis, parce que c'est ça l'intérêt de la CAN, hein. C'est de faire en sorte que, parce qu'on n'a même pas ça en général, un championnat local soit mis en place.
Entre-temps, vous avez eu la création de la Ligue des Championnes,
oui,
qui aussi suscite justement la création de compétitions dans la plupart des pays africains, ce qui est une très bonne chose. Et il y a de la qualité. Pareil, j'ai eu l'occasion de commenter des matchs de la Ligue des Championnes. Il y a du talent, il y a beaucoup de talent. Les championnes d'Afrique aujourd'hui, ce sont les Mamelodi Sundance, les Ladies. Donc, il n'y en aura que quelques-unes parce qu'après la Ligue des Championnes, certaines ont été transférées en Europe.
Oui, bien sûr, c'est la règle.
Mais c'est vrai que le Nigeria a une gueule du grand favori. Et ça va pas être simple hein, dans ce groupe Nigeria, Afrique du Sud. Il y a des places de meilleur deuxième à aller chercher. Et puis effectivement, je crois que c'est Salim qui parlait du Sénégal en particulier. On fonde beaucoup d'espoir aussi sur cette belle équipe du Sénégal. On va retrouver la Tunisie qui est absente depuis pas mal de temps. Le Maroc, attention, les filles, les Marocaines qui ont été chercher le bronze en Ligue des Championnes. Toutes les joueuses des phares de Rabat, donc du club militaire.
Ça se passe au Maroc, avec
Reynald Pedros, qui est le sélectionneur, faut pas l'oublier. Toutes les joueuses des phares sont internationales. Alors, il y aura
Maroc qui est donc qualifié, forcément, ce sera sa troisième CAN seulement et la première depuis 22 ans. Donc, on part de loin quand même.
Beaucoup d'ambition. Il n'y a pas seulement le côté organisationnel.
C'est la première CAN en été. On rappelle que d'habitude, ça se passe en octobre-novembre. Mmh. C'était le cas il y a 4 ans.
Là, après, elles n'ont pas forcément été super performantes dans la préparation, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu n'as pas réussi à être fort ou performant que tu ne vas pas arriver en phase finale. Mais pression sur les Lions de l'Atlas, parce que ce sont les Lions de l'Atlas. Et pour le reste, vous avez raison, voilà, il y a le Cameroun. Attention, la Zambie, on les a vus aussi, les Zambiens, aux Jeux Olympiques avec Barbara Banda, notamment.
Souvenez-vous. On l'a dit, il y a a priori Afrique du Sud, Nigeria, Cameroun, il y a quasiment 3 places. On sait qu'ils seront prises, en tout cas au moins 2.
Logiquement. La Tunisie est très ambitieuse, attention. Voilà, très très ambitieuse.
On va voir pour la première fois le Burundi à une CAN féminine. Le Burundi, est-ce que vous imaginez ce que ça peut être pour ce pays qui vient de découvrir la CAN chez les hommes et qui là va la découvrir chez les femmes.
Ça veut dire que ça travaille.
Le Burundi, je suis allé chercher. C'est la moins bien classée des 12 sélections, 169e au classement FIFA. Vous vous rendez compte ce que c'est que d'être 169e chez les femmes au classement FIFA?
Ça va changer déjà, puisqu'en participant à la CAN, elles vont gagner, elles risquent de gagner des places, marquer
des points. Mais ça veut dire que dans tous ces pays-là, on n'a pas évoqué aussi les éperviers d'âmes.
Oui, le Togo, première participation pour les Togolaises, alors que les hommes sont un peu au fond du trou sportivement, on peut le dire. On est désolé, Steven Lafont, si tu nous écoutes, on t'embrasse bien fort.
Mais les éperviers d'âmes sont sont là et on peut imaginer qu'elles arrivent aussi avec des ambitions. Le Botswana, alors Botswana, ça va être compliqué aussi.
Ouais, là,
très très
Botswana,
compliqué.
Burkina Faso, première CAN, et nos amis burkinabés.
Bien sûr, et puis l'Ouganda pour l'Afrique de l'Est. En fait, la plupart des toutes les régions sont représentées, mais les mondialistes partent avec plusieurs longueurs d'avance naturellement.
Elles plus d'expérience aussi.
Plus d'expérience, ouais, voilà, au niveau du collectif. Le Maroc, avec toutes ses joueuses aussi expérimentées. La Tunisie, je suis un peu en contact avec certaines joueuses tunisiennes et je sais qu'elles arrivent avec l'envie d'aller en Coupe du Monde. Donc, ça va être un tournoi, je pense, très, très intéressant, celui du Maroc.
Mais c'est incroyable. Quand je regarde les statistiques sur lesquelles on a travaillé, parce que c'est pas l'air de rien, bon, enfin, on n'arrive pas à 18h. Hein.
Et pourtant, pourtant si les gens savaient.
Nous, on n'a pas le temps de trier des maillots le week-end. Hein. Et on n'en a pas 700 non plus.
Bim, bam, boum.
Mais vous savez, je l'ai dit, le Nigeria sera sa 14e CAN sur 14, avec 11 victoires. Bon. Ouais. Le Cameroun et l'Afrique du Sud, 13e CAN. Après, l'équipe la plus expérimentée, la Zambie, 3e CAN. Le Sénégal, 3e CAN. Vous voyez le gap rien qu'en participation. Ouais, c'est. Alors, c'est vrai qu'avant, il n'y avait que 8 équipes. Là, on est à 12. Donc, c'est normal d'avoir du flux. Mais il y a un fossé énorme entre les trois sélections phares et le reste.
Après, vous avez aussi des générations comme celle du Sénégal avec quelques expatriés de grande qualité. Il y a des équipes comme ça qui sont en train de monter. On sait que chez les très jeunes, la Tanzanie est en train de faire une grosse équipe aussi. Elle a écarté le Cameroun dans les catégories de jeunes. Donc
il faut laisser le temps au temps, ça vient dans le bon sens.
Voilà, exactement.
Ouais, c'est un peu vrai pour toute l'Afrique en fait. Le football est en train de se développer. On organise déjà en dessous dans les équipes de jeunes. On a compris que c'était pas la sélection principale qui était l'avenir, mais bien les jeunes derrière. Donc il faut préparer le terrain en fait. On a besoin de ça.
Et à quand au Madagascar en CAN féminine?
C'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot même.
Il n'y a aucune raison pour que ça ne vienne pas.
Tout est en train de se mettre en place.
La Nouvelle-Calédonie a une équipe. J'ai regardé le classement. C'est incroyable de voir comment il y a des sélections.
Parce que franchement, à Madagascar, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de talents que ça en est inquiétant de ne pas avoir organisé ça bien avant.
Il y a tellement peu d'argent ou peu de moyens mis.
Mais il y a la volonté, il y a le talent, c'est déjà beaucoup. Et après, faut s'y mettre. Hein.
C'est un sacerdoce d'être footballeuse sur le continent, il faut le dire, même si beaucoup jouent en Europe. Celles qui ne jouent pas en Europe, qui n'ont pas cette chance, j'ose pas imaginer quel beau reportage à faire. On espère aura l'occasion de faire. Aller voir au Burundi comment ça se passe, aller voir au Togo comment ça se passe,
Burkina Faso.
En Ouganda, voir Burkina. Dans quelles conditions on s'entraîne, avec quels moyens. Si ça, c'est pas de la passion, alors vraiment,
il y a des vrais modèles. Je pense que les jeunes filles sont inspirées aussi par les pionnières qui sont actuellement en Europe et ailleurs. C'est sûr que Assisat Ochoala,
Double Z
et d'autres, ce sont des meilleures joueuses
du continent. Je ne sais pas combien de trophées de la CAF elle a pu recevoir. Elle est nigériane, bien sûr. Elle était l'affaire de lance.
Et puis les Américaines qui peuvent aussi inspirer quelque part par le message qu'elles délivrent sur l'égalité notamment sur le plan salarial. Tout ça, c'est des choses, c'est des combats et c'est des choses qui doivent habiter, je pense, ces jeunes générations.
Doivent-elles se dire, nos frères y ont droit, et pourquoi pas nous les sœurs.
Exactement. Je pense que la dynamique homme aussi fait que les résultats des hommes aussi fait que derrière, peut-être, les filles ont envie de performer autant que les gars.
On dit des choses vachement bien, Salim, et on ne vous entend pas, là. Alors, on aimerait que vous soyez d'accord ou pas.
Mais non, mais moi, je vous entends, en fait, Olivier. Je bois vos paroles, en fait, pour le coup.
Voilà, en tout cas, cette CAN, elle sera à suivre sur RFI, on l'a dit, du 2 au 23 juillet au Maroc, chez nos amis de Canal Plus Sport Afrique aussi. Vous entendrez Franck Simon. On n'oublie pas que l'Euro sera également à suivre sur RFI. On suivra les progressions de l'équipe de France avec notamment Tom Rossi, Martin Guez. Suivant le parcours des Françaises. Voilà pour cette longue page football féminin dans Radio Foot. Elle était importante, on vous le rappelle, c'est la dernière semaine. Ne venez pas pleurer la semaine prochaine. On ne viendra pas, il faudra attendre début août. C'est comme ça, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose en ce moment sur la planète foot. Donc,
il y a toujours du foot.
Les 2 euros, dit le type qui est en vacances jusqu'au 25 juillet. Allez, on passe à la suite.
Viva, Missa la bella, o la più bella Missa, regina degli flu.
C'est pour pas de jus, ça, non?
Hein, il n'est pas là, Pat, mais peut-être qu'il écoute Patrick Juillard le plus.
Je pense que c'est pour lui.
Soit de nous tous. Ouais. Vous avez reconnu, ouais, bien sûr.
Le cœur rouge et noir. Hein.
L'hymne. C'est beau cette chanson. Hein,
absolument. Ouais, c'était beau, ouais, c'est vrai.
Nice, donc, Christophe Galtier, pas encore officiellement parti. Quand je parlais de secret de Polichinelle tout à l'heure, ou arrivé, Favre, lui, est déjà arrivé ou intronisé. 4 ans après un premier passage, bien noté, hein, ce premier passage de Lucien Favre, mais sans trophée entre 2016 et 2018. Le Suisse de 64 ans est donc de retour. Alors déjà, un mot sur Galtier, puisqu'on blague et puis on a Eric qui est là, et tout le monde sait. Galtier et son bilan, il est resté une saison. Pas globe, hein. Il arrive au réalé d'un titre de champion de France, du très très bon boulot à Saint-Etienne avant, avec un trophée me semble-t-il aussi. Et puis bon, à Nice, on attend, on se dit ah voilà, c'est l'homme de la situation, le projet Ineos, il y a de l'argent, ça va le faire, puis ça l'a pas trop fait. 5e finalement et une qualification en Ligue Europa, c'était le minimum.
Et une finale en Coupe de France. Et oui. puis après, j'allais dire son meilleur fait de la saison, c'est de ne pas avoir pris de but contre le Paris Saint-Germain. Et peut-être que ça l'a emmené jusqu'au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc peut-être que finalement, il a fait ce qu'il devait faire. C'était d'être solide depuis plusieurs années, d'être solide contre le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il va être le premier candidat au poste.
C'est quand même dingue d'imaginer qu'après sa saison c'est la fou, plus pourrie de ces dernières années, il va arriver au Parc des Princes. On est tous d'accord, c'est une question d'heure.
Je pense. Voilà. C'est un secret.
J'ai pas regardé les tweets récents de nos confrères de radio ou de certains députés qui veulent être ministres qui nous affirment que Zinedine Zidane n'ira pas, hein, qu'on se le dise. C'est bien Galtier.
Bon, c'est laissé sur la suite de Pochettino qui va.
Oui, en fait, on n'a pas encore réglé le départ de.
Parce que là, Pochettino, c'est réglé en fait. C'est ses adjoints. C'est pour le départ et l'indemnité de départ de ses adjoints. C'est pour ça que Galtier n'est pas encore l'entraîneur.
Bon, ce sera pour aujourd'hui ou pour demain.
Pour cette semaine.
Ouais. Mais c'est vrai que Galtier, donc, une saison à tête de Nice, et vous l'avez dit, lorsqu'il arrive à Nice, après Lille, en plus, d'ailleurs, on s'était dit, il va rester à Lille pour jouer la Ligue des Champions et tout. On s'était tous dit ça. Finalement, il part pour un projet. On se dit, s'il part, il va y avoir des moyens. Et pour le coup, il a eu des moyens pour attirer des joueurs intéressants pour son style de jeu. Et au final, il finit cinquième. D'ailleurs, il finit cinquième à la dernière seconde. Rappelez-vous, il était quatrième. Hein. Au final, Rennes marque un but qui fait qu'il est quatrième, que Rennes est quatrième, Nice cinquième et va en Europa Conference League. Nice, hein. C'est même pas l'Europa League. Hein.
L'Europa League, c'est le quatrième. Lui, il est en Europa Conference League.
Puisque Nantes a gagné la Coupe de France.
La Coupe que personne ne regarde parce qu'on ne sait pas bien. Bientôt, on fera une Coupe pour les 8 et 9e des championnats.
Et au final, c'est la Coupe Intertoto. Mais au final, donc, il y a cette déception-là, c'est que ça s'est mal terminé. Et pendant la saison, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques. On savait pas trop parfois comment il jouait, avec qui. Il changeait des choses.
Ça promet pour la saison prochaine.
C'était très très bizarre.
Il a un peu plus de matos,
et au final, ça a pas fonctionné. Alors qu'on se dit, il y a un projet jeune, vivant, qui pouvait pousser. Là, c'est pas du tout le même projet, le même calibre. Au-delà du standing du PSG, c'est d'autres types de joueurs, d'autres manières de faire. C'est très étonnant de voir en tout cas aller là-bas. Mais pourquoi
Franck,
pas
votre avis sur Christophe Galtier. A priori, c'est quelqu'un qui doit vous plaire.
C'est plutôt le type de technicien que j'affectionne et je pense même qu'on aurait pu le voir arriver à Paris bien avant. Voilà. S'il doit arriver là, peut-être il y a un an ou deux, il aurait pu être déjà sur place. Après, bon, comme le disait Salim, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement des choses qui n'ont pas forcément convaincu. Hein. Puis il y a eu aussi en interne, on a un petit peu suivi ça.
Ouais, bien sûr.
On discutait avec Patrick souvent et voilà, on sentait qu'il y avait quand même. Il y avait
on a l'impression qu'il a été déçu.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il s'attendait à avoir, plus de moyens.
Donc du coup,
il
décide d'aller voir ailleurs. Et moi, je le comprends. Ça ne se refuse pas.
Ça ne se refuse pas. Et puis pour le coup, là, ce sera complètement différent parce qu'il sera suivi en interne par Campos avec qui il a travaillé à Lille. Donc il risque pas d'être embêté de ce côté-là. Et puis après, il arrive avec du matos qui est quand même assez intéressant.
Il va falloir s'imposer face à ce matos-là.
Moi, ma seule interrogation,
Lionel, tu joues pas samedi.
Elle est là.
Ça va pas être
ça. Ouais, mais après, bon, voilà, ça reste un coach. J'espère qu'il va pouvoir s'imposer et qu'il pourra mettre des choses en place. Je reste sur ma faim sur Pochettino parce que son passage et sur sa proposition de jeu. Il n'y avait rien en fait.
Laquelle
c'est dramatique.
Enfin, ça fait combien de temps qu'un entraîneur n'a pas proposé du jeu au Paris Saint-Germain?
Oh non, il y a eu des choses proposées.
Avec Unai, il y a eu des petites choses.
Je pense qu'ils ont été bridés quand même. Parce que l'arrivée de Galtier, elle est quand même liée à la prise de conscience du club d'arrêter le bling-bling, comme, ouais, comme disait Nasser, et de redevenir un club de foot avec des valeurs et du travail et tout ce qu'il faut sur le terrain, avec des joueurs qui sont concernés par le maillot, par le club, par les performances.
Alors là, Galtier, c'est pas mal.
Donc là, de ce côté-là, je pense qu'en termes d'humain, c'est un bon choix. Après, est-ce que ça passera bien ? Je ne sais pas.
C'est le meilleur entraîneur, voilà, français, ouais, ouais, en France depuis
actuellement,
pas mal de,
oui,
pas mal de saisons. Donc, c'est bien qu'il arrive là aussi. C'est bien pour lui d'avoir cette scène encore plus importante que celle qu'il a connue précédemment. Et vous le disiez, Olivier, il a aussi emporté des petites choses ici et là avant. Ce n'est pas, ouais, pas un perdant de l'année. C'est un très, très bon technicien.
Après, je pense quand même que l'arrivée de Campos fait quand même beaucoup pour son arrivée à lui.
Alors, on va en reparler dans la semaine. Mon petit doigt me le dit. Ce serait quand même pas de bol que le PSG officialise son arrivée vendredi à 19h, pile poil à la fin du Café des Sports. Ce serait pas sport. On a dit Galtier, meilleur entraîneur français du moment. Lucien Favre, meilleur entraîneur suisse en Allemagne du moment. On peut dire ça comme ça ?
Du moment ou d'il y a quelques moments déjà, parce que ça fait...
Lucien Favre, ouais, ex-milieu défensif à Lausanne, Neuchâtel, Toulouse, international avec la Nati, grand pédagogue, entraîneur reconnu.
Ouais, j'aime bien.
Neuchâtel, Servette, Zurich, puis en Allemagne, le Hertha Berlin, Mönchengladbach. Là, il acquiert ses lettres de noblesse. Il passe à Nice, je l'ai dit en préambule, bien noté mais sans trophée. Le Borussia Dortmund, avec quand même une super coupe. Sinon, son palmarès, ouais, mais... c'était essentiellement en Suisse. Hein, deux fois champion, deux coupes de Suisse. Le Borussia Dortmund, une super coupe d'Allemagne. Alors, on l'écoute, Lucien Favre, et on en parle bien sûr après. Lucien Favre, à qui le projet Ineos, qui a un peu fait fuir Galtier, ben lui, ça lui plaît.
C'est quand même quelque chose de spécial pour moi, revenir là, parce que ça s'était bien passé en 2016-2018. Au niveau sportif, au niveau humain, j'ai connu beaucoup de personnes avec lesquelles je gardais un contact régulier. Dès qu'il y a eu l'OGC Nice, peu avant il y avait un autre club, puis après il y a eu l'OGC Nice et là j'y vais. Pour plusieurs raisons. C'est très intéressant, c'est ce que fait Ineos. Ce qu'ils veulent construire et continuer de construire, c'est un truc très très important. Donc ça c'est déjà au niveau sportif, puis au niveau humain, je connais déjà pas mal de personnes et c'est quand même très agréable et c'est toujours mieux comme ça, quoi.
Je suis sensible aux voix aujourd'hui, j'adore le timbre,
ouais,
j'aime
bien,
voix
c'est vrai aussi,
de Lucien Favre. C'est calme, c'est posé, c'est réfléchi. On sent quelqu'un pour qui chaque mot est compté. Et je voudrais rendre à Milo Verchère, notre stagiaire, ce qui est à Milo. J'ai dit, paraît-il, milieu défensif, il était milieu offensif. C'est pour ça qu'on prend des stagiaires, c'est
comment
pas que pour
sait,
aller
Milo
chercher
des
cafés
sait, hein,
ou nous accompagner à la cantoche. Mais oui, bien, ouais, sûr. Mais
parce
ça,
pour savoir que Favre était un milieu offensif,
ouais,
c'est pas évident pour tout le monde.
Il a bien mérité son gâteau au chocolat de midi. Alors, où va Nice avec Lucien Favre?
Ah, ils vont bien, je pense. Je pense que c'est une bonne recrue pour Nice. Alors, il connaît la
il
maison.
Il a l'air d'être ravi de revenir.
Il connaît la maison, mais surtout, moi, j'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'il a proposé. Alors, ça n'a pas toujours marché. Je trouve que sur le terrain, c'était plutôt intéressant. Ses équipes jouaient au football et c'est plutôt intéressant.
En préambule, quand on a évoqué le cas Galtier sur sa saison à Nice, on évoquait le fait que parfois, on n'arrive pas à visualiser son jeu, son style de jeu, etc. Pour le coup, Favre, au moins, on ne va pas être surpris a priori par son style de jeu.
Ouais, comment ça joue.
Il l'a démontré à Nice, il l'a démontré en Allemagne. Il ne se cache pas. D'ailleurs, parfois, c'est presque critiquable parce qu'à vouloir aller de l'avant, ouais, assumer ce déséquilibre-là, bah, parfois, c'est risqué lorsque vous n'avez pas les mecs qu'il faut derrière. Après, au moins, ça veut jouer. Et ça, au moins, il ne se cachera pas.
Et ça plaît à Franck Simon aussi.
Ah, ça va plaire déjà aux supporters, au public.
Bah, c'est ça, pour le spectacle.
Pour le spectacle, naturellement. Et puis, je trouve que c'est gratifiant aussi pour ce championnat d'avoir une équipe supplémentaire qui va proposer du jeu, qui ne sera pas comme ça à toujours vouloir bloquer les autres, mais au contraire, aller provoquer, aller les chercher dans leur propre camp. Tant mieux, c'est bien de voir Favre, parce qu'il a aussi cette affection pour le football français. Tant mieux pour le football français. Et parce que s'il revient, c'est bien sûr il y a Ineos, mais pas que ça. Je pense qu'il y a aussi ce contexte.
Pour l'instant, Ineos, ça a marché dans le vélo. Ouais. Pour le foot, c'est. Bon,
mais on le sent quand même attaché à ce club. Donc.
Juste un petit rappel. Il y a eu le passage donc Dortmund, on le disait, et même il y a eu la Supercoupe d'Allemagne, mais ça n'a pas été un passage exceptionnel pour le coup. Hein. Il y a eu, on évoquait la déception Galtier à Nice, à Dortmund, ça a été le cas. Déception aussi Favre. Pas la bonne ou pas super bonne utilisation d'Haaland. Alors on se dit qu'Haaland il a marqué beaucoup de buts, oui, mais au final, c'est pas ce qu'on voulait forcément en Allemagne, sur d'autres joueurs également. Donc, oui, il y a eu quand même de la déception aussi. Hein.
Ouais, mais c'est un le championnat d'Allemagne est un championnat où toutes les équipes jouent au football. Ça veut dire que là, revenir en France, je vais pas te dire que c'est pas si toutes les équipes ne jouent pas au football, mais il y a moins de propositions. Il y a moins de propositions.
Surtout la saison prochaine, ça va être compliqué.
Il y a moins de propositions de
jeu. Quatre descentes et seulement deux montées.
C'est ça. Donc il y a moins de propositions de jeu. Donc peut-être que en arrivant avec cet état d'esprit d'équipe d'Allemagne ou qui va essayer certainement de transposer en France, je pense qu'il aura beaucoup plus de résultats que certainement en Allemagne où c'était plus dur, je pense.
Ça visera le podium, c'est l'objectif.
À minima. Après, ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est que quand tu n'as pas dirigé une équipe, une sélection, un club pendant un an, deux ans, ce qui est son cas, tu arrives encore plus frais.
C'est vrai.
Et donc, tu as eu le temps aussi de penser à ce que... Tu as eu le temps de penser à ce que Salim décrivait à l'instant, c'est-à-dire, j'ai peut-être pas bien utilisé un tel. Il va falloir que mon logiciel, je l'ai remis à jour. Je sais aujourd'hui ce que je peux faire, ce que je ne vais pas faire. Et il arrive très, très fort. Et il connaît tellement bien ce contexte, ça va lui faciliter la tâche.
Voilà.
On est
voilà
plutôt pour positif.
Et puis, Lucien Favre. L'accueil devrait être bon, puisque son passage
a été
bon.
Il a laissé un très, très bon
souvenir. C'est plus facile de travailler dans des conditions où on t'attend et on est content.
Il part avec ça. Attention.
Oui, bien sûr. Ça peut changer vite.
Que ça tourne vinaigre trop vite dans une saison qui va être très particulière avec cette immense coupure due à la Coupe du Monde novembre-décembre, on le rappelle. Allez, on file en Italie, Monsieur Salerno.
In 110 anni di storia, va in Serie A.
C'est pour vous ça, Olivier?
Non, c'est pour le monsieur Berlusconi. Puis c'est monsieur Salerno. Salerno, oui.
D'accord.
Il y a côté un peu transalpin.
Salerno.
Salerno. Maestro Salerno. Ça colle mieux que David Finzel.
Oui, bien sûr.
Monza en Serie A, Bunga Bunga. Bon, vous voyez la référence. Hein. Moi, je ne maîtrise pas tout.
Il y a Milo, faut pas trop en parler quand même. Hein. C'est que pour les majeurs, normalement.
110 ans d'histoire, Monza. Sans relief. Un rachat en 2018 par Silvio Berlusconi, l'homme des soirées, Bunga Bunga, mania de la presse, président du conseil, roublard notoire, mais 5 Ligues des Champions au comptoir avec le Milan AC. Et fin mai, le Graal, double barrage face à Pise et au bout du suspense, la Serie A. Bonjour Matteo Ciofi.
Bonjour Olivier, on m'a jamais invité au Bunga Bunga.
C'est ce qu'on dit.
Et pourtant on nous dit.
Mais on m'a toujours oublié.
Il y avait votre silhouette, on vous a vu, mais on ne vous a jamais vu.
Mais c'était pas moi, non. C'était pas moi.
Alors Matteo Ciofi, Monza, c'est qui et c'était quoi avant ce club?
Alors, le Monza Football Club a été fondé en 1912. C'est un club habitué à la Serie B, où il a disputé 40 championnats, sans jamais réussir à monter en Serie A jusqu'à cette année. Donc, palmarès, pas trop alléchant, quatre coupes d'Italie, de troisième division. Mais attention, si c'est vrai que le club n'a rien gagné dans son histoire, en même temps, faut souligner qu'il a contribué à lancer au grand niveau des joueurs devenus fameux, car c'est à Monza qui ont commencé à jouer Pierluigi Casiraghi, ex-Juve et ex-Lazio, Daniele Massaro, vedette de l'AC Milan, et puis récemment Matteo Pessina, milieu de terrain de la Nazionale. Et puis avoir porté le dossard de cette équipe de noms très connus comme Alessandro Costacurta, le défenseur central de l'AC Milan, Luigi Di Biagio et aussi un certain très jeune Patrick Evra, qui a joué dans cette équipe dans la saison 1999-2000.
C'était à l'époque où il était super sympa. qu'est-ce qui amène là Silvio Bunga Berlusconi, en dehors du fait de rester en Lombardie?
Alors, en réalité, l'idée est venue à son alter ego, c'est-à-dire Adriano Galliani, qui avait déjà travaillé pour le club de Monza pour un bref moment en 1975. Galliani, qui est né dans cette ville lombarde en 2018, avait donc su que Felice Colombo, président du club lombard, était à deux doigts de vendre tout un fonds américain dont personne ne savait pas grand-chose. À ce moment, Galliani s'est rendu dans la ville Berlusconi à Arcore, qui se trouve à quelques kilomètres de Monza. Les deux se sont mis à table pour un repas. Galliani a communiqué la nouvelle à Berlusconi, qui n'a rien dit jusqu'au dessert, où il a regardé dans les yeux son bras droit et lui a dit « Adriano, vas-y, tu sais quoi faire ». Quelques heures plus tard, le club est passé dans les mains de Berlusconi pour 2,9 millions d'euros.
Oh, bon, il n'a même pas eu trop trop à piocher dans la grand-chose. Ça cassette, alors que quand Berlusconi vous regarde dans les yeux, j'ai craint le pire. J'ai craint le pire sur la déclaration. Parce qu'on le rappelle, Monza, c'est le Grand Prix d'Italie, c'est Ferrari, c'est tout sauf le football. Dans ce contexte, Matteo, comment est-ce que cette équipe est perçue? Parce qu'on ne peut pas dire que Berlusconi soit hyper aimé dans le monde du football italien, non?
Ah ben oui, Olivier, c'est l'équipe de Silvio Berlusconi. C'est donc un club qui appartient à un personnage qui, dans ses 30 dernières années, a divisé le pays. Et pour cette raison, Monza ne sera pas sympa à tous. À mon avis, au contraire, il faudra faire très attention à cette équipe, surtout parce qu'elle est composée presque seulement par des jeunes joueurs italiens. Et Dieu sait, vu l'état des lieux, combien le pays a besoin en ce moment de dénicher des promesses du football.
Alors je vous propose d'écouter Silvio Berlusconi avant d'arriver à la dernière question et puis de faire un petit tour rapide pour savoir ce qu'en pensent nos invités de la journée, parce que bah, le club monte en Serie A et vous allez l'entendre, Silvio Berlusconi, fidèle à ses ambitions, nous clame haut et fort que ça n'est, on va pas s'arrêter là, on écoute, c'est lui qui le dit le mieux.
Maintenant qu'on est monté en Serie A, il faudra s'adjuger le Scudetto et ensuite aller en Ligue des Champions pour remporter aussi cette compétition. Je suis quelqu'un qui est habitué toujours à gagner, donc on verra.
Il n'a pas changé, hein, votre copain Matteo. Hein. Avec l'argent, on peut tout faire, donc en somme.
Mais ça, c'était des propos qu'il a fait le jour après où Monza était monté en Serie A. Ce matin, oui, Adriano Galliani à la RAI a déclaré que l'objectif sera celui de s'assurer une place en Serie A aussi pour la prochaine saison.
Oui, ça sera bien de commencer par ça.
C'est quand même une grosse pression. Hein.
De ouais. Dire qu'on va gagner, en même temps, c'est vrai que Berlusconi...
Allez-y, oui, Matteo.
Non, mais ça c'est du Berlusconi. c'est vrai qu'il l'avait dit à l'AC Milan et je crois que quelque chose de pareil est arrivé. Mais bon, c'est une autre histoire, à mon avis, l'AC Milan. C'est vrai que Berlusconi n'est pas arrivé jusque-là pour ne pas essayer au moins d'accomplir quelques petits exploits. Direction de, en ce moment, le Mercato, des renforts ont déjà débarqué. Les plus importants concernent l'arrivée de l'ex-gardien de Cagliari, Alessio Caragno, qui en ce moment représente l'alternative à Gigio Donnarumma en équipe nationale. L'autre recrue est celle d'expérience. Et là, on parle de Andrea Ranocchia, qui après 10 ans a quitté l'Inter. Une chose à savoir, Galliani aura cette année à son côté François Modesto, ex-joueur corse. Voilà, ex-directeur sportif de l'Olympiakos d'Athènes. Il a été présenté comme quelqu'un qui sait comment découvrir de jeunes talents.
Très bien, Matteo, pour ce gros plan, ce focus, vous en pensez quoi? On en pense quoi de Silvio Berlusconi chez Franck Simon à Monza?
J'attends avec impatience.
Ça, par contre, c'est pas votre cam.
Non, pas vraiment.
Monza, c'est Milan.
Oui, oui, absolument.
Alors, c'est le 23 octobre.
Alors, je vais vous le dire, mais laissez David Fitzel, il donne des infos et c'est bien toujours de les donner. On est parti pour la semaine. Premier match de Monza, ce sera contre le Torino le 14 août et évidemment au Milan AC, première confrontation, le 23 octobre.
On espère qu'ils iront chercher aussi des talents africains. Voilà, ça serait une bonne chose aussi.
Là, ils vont devoir se renforcer quand même, parce que tu fais une montée.
Non, mais voilà,
c'est ça qu'on va surveiller, parce qu'ils vont aller chercher quels joueurs, des anciens.
On l'a entendu, des garçons qui sont rompus à la Serie A, mais il faut aussi. C'est une équipe jeune, donc il faut des renforts expérimentés, mais ça ne suffit pas.
Mais quoi qu'il arrive, ce sera effectivement une curiosité de voir sur le terrain, de voir les tribunes. Le duo Berlusconi et Galliani dans les tribunes, ça sera à voir.
Et c'est qui le coach, Matteo? Il nous a pas dit Matteo.
Le coach Matteo, rapidement.
Giovanni Stroppa. Il s'appelle Giovanni Stroppa, c'est un ancien milieu de terrain de l'AC Milan.
Très bien. On a entendu son nom, on vous a entendu. On n'a plus rien à dire. À partir du moment où vous avez entendu Matteo, cet accent inimitable, c'est l'heure de vous dire qu'on se retrouve demain. Ce ne sera pas moi, ce sera Hugo Boissonnier. Et le programme sera tout aussi alléchant.
Ce sera beaucoup mieux même.
Et on recommande Milo Verchère pour recrue à Monza.
Tous les jours, à